Chapitre 13. Chicha Bar. En réalité, il existe deux sortes de vie. Celle que les gens croient que vous menez, et l'autre. Et c'est l'autre qui pose des problèmes, et que nous désirons ardemment voir. James Salter. Alice déboula dans la rue. Elle avait remisé son flingue dans son holster et portait son sac en bandoulière. Le vent frais charriait des effluves d'épices, d'abricots et de sucre glace. Elle repéra la Shelby garée devant le bar à chicha. Carrosserie couleur crème, chrome miroitant, bande bleue sportive, ligne agressive. Un tigre endormi prêt à rugir. Sur ses gardes, la jeune femme traversa la rue et poussa la porte du Nefertiti. L'endroit était un savoureux mélange d'influences arabes et occidentales, jouant d'une décoration éclectique. On y trouvait pêle-mêle des tables basses, des grands fauteuils, des coussins brodés d'or, mais également une bibliothèque débordant de livres, un piano bastringue, un vieux comptoir en zinc et en chêne patiné, un jeu de fléchettes venu d'un pub anglais. L'ambiance était agréable, celle d'un début d'après-midi d'automne tranquille et ensoleillé. Des étudiants au look hipster, planqués derrière l'écran de leur ordinateur portable, cohabitaient en bonne intelligence avec les vieux égyptiens et maghrébins du quartier qui refaisaient le monde en tirant sur leur pipe à eau. Les saveurs sucrées qui émanaient de la fumée des chichas se mêlaient à celles du thé à la menthe, contribuant à créer une bulle olfactive harmonieuse et enveloppante. Assis à une table, Gabriel avait entamé une partie d'échecs avec un geek chevelu, vêtu d'un improbable col roulé jaune fluo en élastane et d'une doudoune sans manches violacée. « Kane, il faut qu'on parle. » Le jeune joueur d'échecs leva la tête et se plaignit d'une voix fluette. « Enfin, madame, vous voyez bien que nous sommes en pleine... Toi, le fluo kid, dégage !» ordonna-t-elle en envoyant valser les pièces du jeu d'échecs. Avant qu'il ait pu réagir, elle empoigna l'étudiant par les pans de sa veste en duvet et le souleva de sa chaise. Le gosse prit peur. Il s'empressa de ramasser des pièces qui jonchaient le sol et s'éloigna sans demander son reste. « On dirait que votre bain ne vous a pas calmé, » déplora Gabriel. « Peut-être qu'une délicieuse pâtisserie orientale y parviendra mieux. Il paraît que leurs beignets au miel et aux fruits secs sont délicieux. À moins que vous ne préfériez un riz au lait ou une tasse de thé. » Elle prit calmement place en face de lui, bien décidée à le confronter à ses contradictions. « Vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir, Kane ?» Il haussa les épaules, souriant. « Dites toujours, si c'est dans mes cordes. » En parlant de cordes, vous voyez le piano droit là-bas, près du comptoir ? » Il se retourna et une ombre inquiète passa sur son visage. « Je serais heureuse que vous me jouiez quelque chose, » reprit Alice. « Après tout, ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance de prendre le thé avec un pianiste de jazz. »« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça gênera les clients et... »« Allons, ne dites pas de bêtises. Ils seront ravis au contraire. Tout le monde aime écouter de la musique en tirant sur son narguilé. » Gabriel se déroba une nouvelle fois. « Le piano n'est sûrement pas accordé. »« C'est un détail, ça. Allez, Kane, jouez-moi quelques standards. Les feuilles mortes, Blue Monk, April in Paris. Ou mieux encore, Alice in Wonderland. Une spéciale dédicace, vous ne pouvez pas me refuser ça. » Embarrassé, il se tortilla sur sa chaise. « Écoutez, je pense que... Et moi, je pense que vous n'êtes pas plus pianiste de jazz que je ne suis bonne sœur. » Gabriel se frotta les paupières et poussa un long soupir de résignation. Comme soulagé, il renonça à nier. « D'accord. Je vous ai menti, » admit-il. « Mais uniquement sur ce point précis. » « Et je suis censé vous croire, Kane. Mais peut-être que Kane n'est pas votre véritable nom. » « Tout le reste est vrai, Alice. Je m'appelle Gabriel Kane. » J'étais à Dublin hier soir, et je me suis réveillé ce matin, menotté à vous, sans comprendre ce qui m'avait amené là. Mais pourquoi m'avoir raconté un tel bobard ? Il poussa un nouveau soupir, conscient que les minutes qui allaient suivre ne seraient pas faciles. « Parce que je suis comme vous, Alice. » Elle fronça les sourcils. Comme moi ? Je suis flic, moi aussi. Un silence pesant s'installa. Vous êtes quoi ? Demanda Alice au bout de plusieurs secondes. Un agent spécial du FBI, affecté au bureau régional de Boston. Vous vous foutez de moi, là ? Explosa-t-elle. Pas du tout. Et j'étais bien à Dublin hier soir, dans ce club de Temple Bar situé en face de mon hôtel. J'y étais allé boire quelques verres pour me détendre après ma journée de travail. Et qu'est-ce que vous foutiez en Irlande ? J'avais fait le voyage pour rencontrer un de mes collègues de la police de République d'Irlande, la garde Shirana. Dans quel cadre ? Celui d'une coopération internationale sur une enquête. Une enquête sur quoi ? Gabrielle prit une gorgée de thé, comme pour ralentir le flot des questions et se donner du temps. Sur une série de crimes, lâcha-t-il enfin. Sur un tueur en série ? Insista Alice pour le pousser dans ses retranchements. Peut-être, admit-il en détournant la tête. Le téléphone de la jeune femme vibra dans la poche de sa veste. Elle regarda l'écran sur lequel s'affichait le numéro de Seymour. Elle hésita. Emportée par les révélations de Kane, elle ne voulait pas prendre le risque d'interrompre ses confidences. « Vous devriez répondre, » conseilla Gabrielle. « Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? C'est votre copain flic, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas curieuse de savoir à qui appartiennent les empreintes relevées sur la seringue ?» Elle obtempéra. « Allô ?
C'est moi, Alice. »
répondit Seymour d'un timbre tourmenté. « Tu as passé l'empreinte dans le fichier de reconnaissance ?
Où l'as-tu trouvée, Alice ?
Sur une seringue. Je t'expliquerai plus tard. Elle a matché, oui ou non ?
Oui, on a un résultat. Mais on est dans la merde.
Pourquoi ?
Le fichier nous indique que l'empreinte appartiendrait à...
Appartiendrait à qui, bordel ?
À Eric Vaughn.
Répondit-il d'une voix blanche. Eric Vaughn ? L'information cueillit Alice par surprise, à la façon d'un uppercut.
Oui, l'homme qui a cherché à te tuer est...
Je sais qui est Eric Vaughn, putain ! Elle ferma les yeux, se sentit vaciller, mais une force de rappel l'empêcha de sombrer. C'est impossible, Seymour, trancha-t-elle d'une voix calme. Un soupir de l'autre côté de la ligne.
Je sais que c'est difficile à croire, mais on a vérifié 10 fois nos résultats. Il y a plus de 30 points de concordance. Cette fois, je suis obligé de prévenir Taillandier.
Laisse-moi encore quelques heures, s'il te plaît.
Impossible, Alice. Désormais, tout ce qui touche à Vaughn nous fait entrer en terrain miné. Tu nous as déjà mis dans la merde 1 fois avec cette affaire.
C'est très délicat de ta part de me le rappeler. Elle regarda la vieille horloge publicitaire Pepsi-Cola placée derrière le comptoir. 13h15, heure de New York. Il est 19h15 à Paris, c'est ça ? Laisse-moi jusqu'à minuit. Silence. Je t'en prie.
Ce n'est pas raisonnable.
Et creuse encore du côté de l'empreinte. Je suis certaine que ce n'est pas Vaughn. Nouveau soupir.
Et moi, je suis certain que Vaughn est à New York, Alice. Qu'il te cherche et qu'il a décidé de te tuer.